Bonjour, c'est Anne-Elisabeth. Vous écoutez C'est à vous, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir, très heureuse de vous retrouver dans C'est à vous. On est ensemble jusqu'à 20h55 en direct avec toute l'équipe. Salut à tous les cinq.
Bonsoir, Babette.
Émilie, votre choix de l'actu ce soir.
C'était le premier jour de Jean Castex à la RATP et il a eu droit à des manifestations au siège de la société.
Voilà, dans un contexte où le pass Navigo, le prix du ticket de métro, va vraisemblablement augmenter, une augmentation de 30% annoncée pour janvier 2023. On en parle avec un spécialiste des transports, Gilles Dansard, qui est à la tête d'un site d'info spécialisé dans les transports qui s'appelle Mobilettre, et non pas Mobilette. Voilà, Mohamed, votre story ce soir.
Comment l'ex-premier ministre britannique Boris Johnson a vécu la pandémie du coronavirus? Vous allez le découvrir de l'intérieur ce soir dans une série satirique savoureuse. Je vous propose quelques extraits.
Le Covid, il en est question dans votre édito également, Patrick.
Oui, des Chinois en révolte contre la politique zéro Covid qui réclament la liberté, de la liberté, ce qui n'est pas arrivé depuis plus de 30 ans, et qui conspuent le régime et ses dirigeants, ce qui n'est quasiment jamais arrivé.
On en parle avec la sinologue présidente de l'association Solidarité Chine. Bonsoir Marie Holzmann.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Mathieu dans le 5 sur 5.
Le brassard anti-discrimination, vous savez, le brassard One Love que les Bleus n'ont pas voulu, pas pu porter au Qatar. Eh bien Noël Le Graët demande au club amateur de le porter désormais. Ça met en colère notre invité Yoann Lemaire, qui est à la tête de l'association Foot Ensemble, qui lutte contre les discriminations dans le football.
Autrement dit, ce qu'on n'a pas imposé aux Bleus, on l'impose aux amateurs du football français.
Exactement.
On y revient dans le 5 sur 5. Et Pierre, dans votre œil?
Alors, le logo de Canal+, c'est lui, mais c'est aussi le logo d'M6. La nouvelle forme du titre de l'équipe, le logo du PSG, c'est encore lui. Lui, c'est Étienne Robial, on voit sa photo. Et le Musée des Arts Décoratifs lui consacre une exposition qui vient d'ouvrir à Paris. Je l'ai visité pour vous.
Oh bah tiens, ça ne m'étonne pas. Vous avez été le premier, évidemment.
Oui, juste avant le premier.
Nos invités du dîner ce soir, Alain Souchon, qui nous raconte les coulisses d'une tournée triomphale, un Tour de France de 2 ans avec plus de 150 dates et qui font l'objet d'un album et d'un DVD avec la captation d'un concert au Dôme de Paris. On est ravis de l'accueillir et puis il nous chantera la chanson qui clôt chacun de ses concerts. Également présent, Reda Kateb, qui est à l'affiche du dernier long métrage de Rachid Bouchareb, Nos Frangins, qui revient sur le meurtre de Malik Oussekine. C'était en marge des manifestations contre la loi de Vaquet, on s'en souvient tous, en décembre 1986. Un dîner préparé ce soir par Christophe Maury, que nous présente Bertrand Chamerois. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir Babette, bonsoir à tous. Effectivement, nouvelle semaine, nouveau chef. Ça sent déjà très très bon en cuisine. Un plat aussi chic que raffiné et un petit peu onéreux puisqu'il sera saupoudré de copeaux de passe Navigo. C'est bien ça?
Oui, tout à fait. Mais ça va manger. On va faire attention au prix.
Qu'est-ce que vous allez nous préparer ce soir, chef?
Donc, je fais des œufs pochés à l'huile d'olive avec une gelée craquante au raisin, une vinaigrette tiède d'herbe et pour le côté périgourdin, puisque je suis de là, une pointe de caviar de Neuvik.
Ah, j'étais pas loin du passe Navigo.
Ah oui, oui.
Merci, chef.
Merci. Les copeaux de passe Navigo, ça donne envie. Hein. C'est là, ça se trouve, c'est la recette de 2023. Merci beaucoup à tous les deux. C'est l'heure de l'édito de Patrick Cohen. Des Chinois en révolte contre la politique zéro Covid qui leur impose des confinements à répétition.
Presque 3 ans que ça dure, depuis les premiers cas de Covid découverts à Wuhan au printemps 2020. 3 ans que la Chine vit pratiquement coupée du monde, avec des restrictions de plus en plus draconiennes, tests et traçages systématiques, confinement d'immeubles et de quartiers entiers, avec interdiction absolue de sortir et surveillance permanente, éloignement et enfermement des contaminés, de leurs cas contacts et même des cas contacts de cas contacts. Le correspondant britannique du Financial Times à Shanghai, Thomas Hale, a raconté récemment son arrestation, il n'y a pas d'autre mot, parce qu'un cas positif avait été détecté dans un bar où il avait pris un verre quelques jours plus tôt, sans même avoir croisé le virus. Il se voit donc embarqué dans un centre de détention à plusieurs heures de route de Shanghai, enfermé pendant 10 jours dans une cabine de 18 mètres carrés façon Algeco, sans eau chaude, avec un lit sans sommier et un matelas aussi épais qu'un gant de cuisine, écrit-il, gardé comme un pestiféré par des hommes et des femmes déguisés en cosmonautes, incapables de justifier du bien fondé d'un système basé sur la peur, la délation, l'arbitraire et la bureaucratie. Ces centres sont secrets, on ne sait pas combien de Chinois y ont été détenus, sachant que d'autres centres sont réservés aux contaminés, aux vrais contaminés, ceux-là. Mais les confinements à domicile s'imposeraient en ce moment à environ un tiers
de la
population chinoise.
Le mondial au Qatar a montré aux Chinois qu'on pouvait vivre autrement.
Oui, les correspondants de presse étrangère parlent d'un déclic ou d'un électrochoc. Les téléspectateurs chinois sont tombés des nues en découvrant ces foules agglutinées sans masque qui prouvent qu'on peut vivre avec le Covid, alors que la propagande leur répète que c'est une maladie très dangereuse dont il faut absolument se protéger. Colère qui s'est mue en début de révolte après les 10 morts d'Urumqi, la capitale du Xinjiang, 10 victimes d'un incendie qui n'ont pu être secourues à temps à cause du confinement parce que les accès étaient fermés, avec comme symbole de cet absurdistan, on l'a vu ces derniers jours, ces QR codes qu'il faut montrer partout et tout le temps.
Des esclaves, on est des citoyens. On veut être libre, on veut la liberté.
Je veux juste qu'on retourne à la vie normale, qu'on puisse vivre comme les femmes de la Coupe du Monde, par exemple, sans masque.
Comme les femmes de la Coupe du Monde. Protestation de jeunes Chinois habitués à obéir, mais qui n'en peuvent plus, qui pour la première fois depuis 30 ans réclament la liberté de façon plus générale et qui, chose jamais vue, enfin Marie Holzmann nous le dira ou pas, ose des cris hostiles au régime et à son chef.
Xi Jinping ! Xi Jinping ! Xi
Jinping ! Vous n'avez pas peur de la police ?
Non. Non, les emmerde.
Pourquoi ?
Parce qu'on est dans notre bon droit.
International en chinois, c'est un sacré pied de nez au régime. Une image encore qui rappelle la révolte démocratique de 89, les manifestations de Tiananmen, ce jeune homme qui tente de barrer la route, non pas d'un char, mais d'un véhicule d'urgence. Voilà, troublillon immédiatement embarqué par la police, scène filmée par le correspondant des Échos à Shanghai, Frédéric Schaeffer, c'était hier soir. Aujourd'hui, la présence policière a été nettement renforcée à Pékin et Shanghai, ce qui fait que la moindre velléité de rassemblement a été immédiatement découragée et dispersée.
C'est la seule réponse du pouvoir chinois.
Répression policière, censure des réseaux sociaux où on ne trouve plus aucune trace des manifestations de ces derniers jours. Un allègement tout de même des restrictions à Urumqi, les habitants auront le droit demain, de faire leurs courses dans leur quartier et la réaffirmation que la politique suivie est la bonne. Notre combat sera une réussite, a répété ce matin le pouvoir chinois.
Pourquoi une telle obstination ?
La croyance peut être en partie fondée que sans ces restrictions, l'épidémie serait hors de contrôle, que le système de santé chinois explosera avec un nombre de morts considérable. Mais ce risque de catastrophe tient d'abord aux piètres performances du vaccin chinois qui produit 10 fois moins d'anticorps que le Pfizer. La Chine, qui n'a pas réussi à inventer son vaccin à ARN messager, met un point d'honneur à n'autoriser aucun produit étranger par patriotisme économique, dit-on. C'est toute l'absurdité de la situation, avec l'infaillibilité du chef suprême Xi Jinping, identifié au zéro Covid. Il en a fait une affaire personnelle et ne peut plus se dédire. Les Chinois qui n'ont pas le droit de vivre avec le virus se sentent désormais condamnés à vivre avec Xi Jinping.
Est-ce qu'on peut imaginer, Marie Holzmann, que ces manifestations puissent agir, ne serait-ce qu'un tout petit peu sur le régime et le faire bouger? Ou est-ce qu'il est prêt, Xi Jinping, à assumer sa politique jusqu'au bout, y compris dans une répression féroce et peut-être sanglante ?
C'est difficile de savoir ce qui va se passer maintenant. On a l'impression que le bateau est troué de tous les côtés. Hein. Les Chinois n'en peuvent plus. Le fait qu'ils sortent dans la rue, ils montrent là un courage incroyable. Hein. Y a des gens qui ont été en prison pour 10, 10, 15, 18 ans, pour moins que ça. Et ils le savent. Hein. Tout à l'heure, quand on leur a demandé « Vous n'avez pas peur des flics ? On n'a pas peur ?» Si, ils ont très peur, ça c'est sûr. Et à juste titre. Xi Jinping ne lâchera pas sa politique du zéro Covid parce que c'est son bébé. Quoi. Il a fait ça à Wuhan et à la fin de l'épidémie à Wuhan, parce qu'à un moment, bon, elle s'est arrêtée, il a tout de suite créé un énorme musée à la gloire de la réussite du triomphe des Chinois contre le Covid. Donc, il s'est ridiculisé. Mais il aurait pu attendre un petit peu, quand même. Et maintenant, il ne peut plus se dédire. Ça, c'est un problème. Alors,
ça veut dire que le cas de Urumqi, là, c'est cette ville...
Urumqi. C'est la ville de...
Où dès demain, effectivement, les habitants pourront se déplacer, faire leurs courses, où les livraisons de colis pourront reprendre. Ça va rester une exception ?
Non. On gagne du temps. Voilà. À Urumqi, il s'est passé un drame. Je ne sais pas si vous avez vu la photo de cet immeuble qui a brûlé. Il a fait 10 morts. Alors, il a fait 10 morts. Pourquoi 10 morts ? Parce que tous les chiffres sont faux en Chine. Hein. Donc, 10 morts, on dit 10 morts parce que ça dépend de la municipalité. Si c'est 20 morts, ça dépend de la province. Si c'est 30 morts, ça dépend de l'État. Et donc, les gens locaux ne veulent jamais voir venir la province ou l'État dans leurs affaires, s'ils sont responsables de cet incendie. Or, on a vu des vidéos où les pompiers ont beaucoup de mal à arriver, parce qu'ils barrent les rues, hein, où ils mettent ces barrières bleues, et puis des tas de trucs quoi, pour empêcher les gens de passer, ils créent des barrières. Et les pompiers, on les voyait qui envoyaient leur jet d'eau, et ça arrivait juste avant l'incendie. Donc ils ont perdu un temps fou, et peut-être du coup perdu beaucoup plus de vie que 10. Donc quand on entend un chiffre en Chine, d'abord on sait que c'est faux. Et pourquoi c'est faux, voilà, c'est une des raisons. Hein.
Donc on calme la colère localement.
Temporairement.
Voilà. Est-ce que Xi Jinping a eu la moindre parole pour les victimes?
Alors, ce qui est intéressant,
cet incendie,
c'est qu'au même moment, il s'est produit un incident dramatique aux îles Salomon, un tremblement de terre. Vous n'en avez pas entendu parler, moi non plus. Mais Xi Jinping a envoyé un message de soutien et de sympathie au président des îles Salomon, au même moment où il n'a rien envoyé aux gens qui sont morts à Urumqi. Donc ça, les internautes chinois, ils sont incroyables, ils voient tout. Par ailleurs, il a reçu le vice-président de Cuba et il lui a fourni 100 millions de yuan, ou non, 100 millions de dollars, pour lutter contre le Covid à Cuba. Non, mais je rêve, quoi. Donc, c'est quelqu'un qui vit dans un autre monde.
Dans un déni absolu.
Dans un déni absolu, il a sa théorie, mais je crois qu'il faut absolument savoir qu'il travaille pour son pouvoir. Et la lutte contre le Covid, c'est très secondaire. Enfin, c'est pas secondaire, mais penser qu'il pense à la santé des Chinois, non.
Enfin, c'est son pouvoir là qui est en quelque sorte secoué, remis en cause.
Oui, mais il pouvait le gérer autrement, son pouvoir. Mm-hmm. Il pouvait dire il faut vacciner tout le monde, il faut des vaccins efficaces, il faut un petit peu de contamination, etc.
Ce qu'on ne comprend pas bien dans l'absurdité de cette situation, c'est que le pouvoir de Xi Jinping, il est assis aussi sur une promesse de prospérité économique, voilà, de réussite économique. Oui. Or, celle-ci est parfaitement empêchée par la politique zéro Covid. C'est ça.
Oui, mais il faut se mettre dans la tête d'un dictateur totalitaire. Donc, un dictateur totalitaire, il a tout pouvoir. Il peut piocher dans les caisses de l'État, il peut donner 100 millions à son copain de Cuba, qui va voter pour lui après à l'ONU. Hein, c'est surtout ça. Hein. Il vise toujours ce genre de choses, et quand il veut. Et puis, il est victime un peu de l'ultra-gauchisme. L'ultra-gauchisme dit, maintenant, ce sont les pays de l'Asie qui montent et l'Occident qui s'écroule. Et il y croit. Je pense qu'il y croit. Et il pense que maintenant, l'heure de la Chine est arrivée, et l'heure de la Chine telle que lui la voit, puisque lui, il se sent richissime. Donc, il n'a pas de problème. Il fait ce qu'il veut de l'argent chinois. Et comme la Chine s'est effectivement modernisée, qu'elle produit beaucoup, etc., donc il refait la Chine à son image, enfin, à son image rêvée. Et son image rêvée, c'est une forme de maoïsme, une forme de totalitarisme parfait, où on peut tout contrôler, on peut tout gérer, on peut tout savoir. Et de toute façon, ça marchera, puisque l'Occident est en train de s'écrouler.
Pour revenir quelques minutes sur ce que vivent les Chinois depuis le début de la politique zéro Covid, quelques exemples de ce casse-tête quotidien.
Ne sortez pas de chez vous, n'allez pas voir les voisins.
Égare à ceux qui s'aventurent en dehors de leur appartement et sans masque. Cette femme est prise à partie par les autorités sanitaires. Le ton monte, elle se retrouve ligotée à genoux pour l'exemple. Ici à Pékin, la capitale, les tests PCR sont quotidiens. Pour tout le monde. Dès qu'un cas positif est découvert, les autorités confinent toute une résidence et embarquent manu militari, comme ici, le patient même asymptomatique. Au mieux pour un hôtel, au pire un camp de quarantaine comme celui-ci, aux conditions de vie spartiates et froides, dans une ville de l'ouest de la Chine.
Est-ce que c'est une forme de torture que subit la population chinoise au quotidien ?
Bah, c'est objectivement une forme de torture, mais je ne pense pas que ce soit conçu comme une forme de torture. C'est logique avec cette idée de zéro Covid, sauf qu'on ne voit pas l'intérêt de coller ensemble des gens qui sont asymptomatiques et qui risquent de tomber malades et qui en plus ne seront pas soignés vu qu'il n'y a pas de personnel médical dans ces centres de confinement. Donc là, effectivement, on peut se poser des questions sérieuses.
Ils ne savent jamais ce qui va se passer le lendemain.
Ils ne savent jamais ce qui va se passer. C'est le principe du totalitarisme, c'est l'arbitraire. Donc vous avez tout le temps peur.
Une politique restrictive d'autant plus insupportable que ceux qui sont recrutés pour faire respecter les confinements peuvent être extrêmement brutaux.
Imaginez, qui est-ce qu'on emploie dans des cas comme ça ? Bon, on emploie ce qu'on appelle les vigiles. Il y a beaucoup de vigiles qui sont là pour manipuler le bâton et faire circuler les vendeurs à la sauvette, pour courir après les délinquants, enfin tout ce que vous voulez. Donc c'est déjà des gens très violents. Et puis on emploie des mafieux. Alors des mafieux, les mafieux, ils sont toujours disponibles. Quoi. Si on les paye un peu, on leur donne le pouvoir et ils ont un pouvoir fantastique. Ils peuvent aller partout. Vous avez vu comment ils ont forcé un jeune homme à entrer dans la voiture pour être emmené en confinement. Je pense que ça doit être extrêmement jouissif pour ces gens-là. Parce que c'est des gens qui, en fait, n'ont, je pense, pas de profession particulière. Ils sont juste disponibles pour aller faire du bâton sur les simples citoyens.
Ce sont les manifestations les plus importantes depuis celles de 1989. Patrick l'a rappelé. La différence, c'est qu'elles ont tout de suite pris un tour politique.
C'est ça qui est fascinant. Parce que depuis 1949, personne n'a jamais osé dire à bas le parti, enfin, sauf quelques exceptions, à bas le parti communiste chinois, et puis lancer des slogans « Xi Jinping, démission !»« Xi Jinping, démission !» C'est très, très impressionnant, parce que ça mérite la prison au moins 20 ans, quoi. Et c'est intéressant, parce que cette fois-ci, ils sont passés à un cran au-dessus. Avant, c'est toujours des revendications, on n'a pas payé mon salaire, une fille qui a été violée, on n'a pas dénoncé le cadre qui l'a violée, enfin ceci, cela. Là, non, ils sont passés tout de suite au stade politique.
Même si ce n'est que quelques centaines, peut-être quelques milliers de personnes à l'échelle d'un pays immense.
Ah non, je pense que c'est plutôt des dizaines de milliers.
Ah bon, vous pensez ?
Ah oui, parce que...
Représentatif de la population chinoise, pas de la frange la plus politisée.
Alors, sur un milliard, on ne peut jamais dire qu'ils sont représentatifs ou pas, c'est impossible. Mais on peut dire quand même qu'il y a une évolution énorme entre 1989... où on était à la fin d'une période d'ouverture, de progrès économique phénoménaux, etc. Et là, aujourd'hui, ce n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire qu'en 89, ils voulaient aller encore plus loin et plus vite, des vraies réformes, et puis s'enrichir comme ils en avaient envie. Quoi. Bon. Et le pouvoir s'est rendu compte que si on les laissait aller plus loin, c'était le régime qui s'effondrait. Donc, ils ont amené les tanks, etc. Mais ils ont passé un pacte avec la Chine, ça, tout le monde est au courant. On prend votre liberté, mais on vous donne la richesse. Et il y a beaucoup de gens qui ont dit « Ah oui, les jeunes, ils demandent la démocratie, mais la démocratie, ça ne se mange pas. » Donc, bof. Et là, maintenant, ils se rendent compte que ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que, on leur a pris leur liberté et ensuite on les a privés de leur richesse. C'est-à-dire que depuis l'arrivée de Xi Jinping, il n'y a que des restrictions. Il y a eu la lutte contre la corruption. Du coup, les fonctionnaires qui n'avaient pas beaucoup de marge de manœuvre ne pouvaient même plus se banqueter tranquille et se saouler tranquille. Non mais ça paraît pas grand-chose, mais leur motivation, elle était où ? Je veux dire, ils n'ont pas le droit d'écrire, ils n'ont pas le droit de parler, ils ont, il y a telle chose qu'ils n'ont pas le droit de faire. Alors, si en plus, ils ne peuvent pas aller se goberger ensemble, il ne reste pas grand-chose dans la vie. Et puis après, ça a été les arrestations des grands entrepreneurs. Imagine qu'on arrête Bolloré, etc., en disant ils sont corrompus, donc Jack on les Ma. Arrête. Et là, c'était Jack Ma, Alipay, Alibaba, etc. C'est une entreprise mondiale. On l'a empêché d'aller en bourse. Il voulait faire un coup financier. Mais pourquoi pas ? Mais on a arrêté aussi Sun Dawu, qui avait créé un groupe agroalimentaire. Et dans son cas, c'est terrible. Il en a pour 15 ans de prison. Sa famille aussi, ses employés ont été virés. C'est incroyable. C'est Xi Jinping casse le moteur. Et le moteur, ce sont des individus, ce sont des gens forts avec des initiatives et qui donc pensent par eux-mêmes. Et ça, pour Xi Jinping, c'est pas possible. Non seulement il ne faut pas penser par soi-même, mais il faut entrer dans le giron de l'État.
L'un des accessoires aussi de tout ça, c'est la censure des réseaux sociaux. Ça, on le sait, mais même les reporters étrangers sur place ont du mal à travailler. Beaucoup de mal. Hier, un journaliste de la BBC a été arrêté et frappé par la police. Alors, selon le ministère chinois des Affaires étrangères, il ne s'était pas identifié en tant que journaliste. Mais la situation compliquée pour les journalistes sur place, ça ne date pas d'hier. C'est ce que nous a confirmé le correspondant en Chine de France Télévisions, Arnaud Miguet, que joint tout à l'heure par Camille Schnee.
Le journalisme, c'est vrai que j'ai assez coutume de le dire, mais est un véritable sport de combat ici, il faut se battre. L'arrestation d'un journaliste n'est absolument pas un fait exceptionnel. Très souvent, on est arrêté, ça ne veut pas dire qu'on est conduit non plus au poste de police, ça ne veut pas dire qu'il y a non plus la violence que l'on a vue sur ces images, mais très souvent, il suffit que vous fassiez une intervention dans la rue, une petite interview, et vous avez des fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères qui vous attendent, qui vous épient, qui vous filment, qui vous suivent, si bien que vous ne pouvez quasiment pas approcher les gens. L'intimidation contre les journalistes étrangers, c'est quelque chose qui arrive de façon absolument régulière en Chine.
Qu'est-ce que craint le plus Xi Jinping ? Que les images de manifestations soient vues par les Chinois eux-mêmes ou est-ce qu'elles soient vues par le monde entier ?
Oh bah, il ne veut pas de désordre, hein, c'est tout. Et il sent bien qu'il n'est pas aimé. Il sent bien que maintenant, les Chinois ont compris que si on n'a pas la démocratie, on n'est pas protégé. C'est-à-dire que tout d'un coup, quelqu'un peut décider si vous avez le droit de sortir, continuer. D'être enfermé, etc. Et beaucoup de Chinois qui nous parlent, de Chine ou d'ici, nous disent qu'ils se sentent complètement humiliés. Imaginez qu'on vous dise à vous, vous n'avez plus le droit de ceci, vous ne pouvez pas sortir, pas faire vos courses et tout. C'est insupportable. Mais ça encore, c'est pas grave. Mais par exemple, hein, y a beaucoup, beaucoup d'exemples qui permettent de comprendre le problème. Il y a à peu près 200 millions de migrants en Chine. Donc quand vous êtes migrant dans une ville et qu'il y a une crise, vous n'existez pas, vous n'êtes pas enregistré. Donc au moment du confinement, on distribue de la nourriture aux gens enregistrés, qui existent, avec une adresse et tout. Mais les migrants, eux, ils vivent dans des cabanons et ils ne sont pas enregistrés. Et donc il y a eu des manifestations, c'était l'année dernière à Tianjin, où il y avait des migrants qui étaient dans la rue et qui hurlaient, qui disaient « Mais que faites-vous pour nous ? On est là, on n'a rien à manger. » Ils étaient en train, littéralement, de mourir de faim.
Situation compliquée aussi, évidemment, pour les expatriés français, les milliers de Français expatriés. La politique zéro Covid ne souffre aucune exception. Témoignage recueilli par Camille Schmitt.
J'ai des stocks d'eau potable, j'ai des boîtes de conserve, j'ai un freezer rempli de viande, parce que je ne sais pas ce qui peut se passer. Du jour au lendemain, je peux être confiné pendant une semaine chez moi. Donc oui, il y a vraiment ce sentiment d'incertitude, en fait. Cette épée de Damoclès qui est au-dessus de nous, et parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer demain. C'est pas humain, en fait. C'est pas humain. Donc on se pose beaucoup la question de qu'est-ce que tu vas faire l'année prochaine. Donc, on va voir comment ça va évoluer pour avant de décider, quoi. C'est plus jouable. Moi, ma famille, maman, j'ai envie de voir mon neveu qui a 5 ans, que j'ai pas vu depuis 3 ans. Enfin, voilà, c'est pas la vie que je veux.
Quoi qu'il advienne, après une telle période, il y a pas mal d'expatriés français qui pourraient penser à revenir, à quitter la Chine.
Je ne sais pas. Mais autour de moi, j'entends le contraire. Hein. C'est-à-dire des gens qui me disent « Non, ça y est, j'ai compris. Quoi. Je m'en vais, je n'y retourne pas. »
Ah oui, voilà.
Qui quittent définitivement la Chine.
Ah oui, absolument, oui.
Et qui sont libres de le faire? Oui,
ils peuvent. Ah bah ça, c'est des étrangers, donc ils sont libres de sortir. Le problème, ce sont les Chinois maintenant. C'est très très difficile de sortir. Souvenez-vous, il n'y a pas très longtemps, on se réjouissait d'avoir 1 million de touristes chinois qui venaient faire leurs courses aux Galeries Lafayette. Moi, je vis dans le 13e, dans le quartier des restaurants chinois. Les groupes chinois allaient manger là-bas. Les restaurateurs me disent, ils ont perdu plus de 50% de leur clientèle. Les touristes chinois représentaient quelque chose de très important. Et pour eux, c'était quelque chose. C'était quelquefois le voyage d'une vie. Et puis, c'était un plaisir quand même de voir le monde. Maintenant, c'est fini. Vous avez peut-être 1% de Chinois qui peuvent sortir très occasionnellement. Et ce sont les hyper privilégiés.
Merci beaucoup, Marie Holzmann. Je rappelle que vous êtes sinologue et présidente de l'association Solidarité Chine, si vous voulez bien rester avec nous pour le reste de l'actualité, et notamment ce qu'on peut appeler un cocktail de bienvenue qui a été réservé ce matin au nouveau patron de la RATP qui prenait ses fonctions aujourd'hui, l'ancien Premier ministre Jean Castex.
J'ai l'immense honneur de prendre mes fonctions de PDG à la RATP. Je consacrerai toute mon énergie à répondre aux défis qui nous attendent. Jean Castex ne croyait sans doute pas si bien dire en tweetant cela ce matin. Un défi l'attendait, lui, personnellement, dès 9h ce matin, prendre la direction d'une entreprise en plein conflit social depuis 6 semaines. Les 3000 salariés de la maintenance de la RATP sont en grève et ce matin, pour l'arrivée de leur nouveau patron, ils ont décidé de manifester au siège de l'entreprise. Camille Schmitt et Anaïs Recouli y étaient.
On le veut, appelez-le, vous avez son numéro de téléphone, vous l'appelez et nous on va lui parler. Il y a eu la crise du Covid, il a plus ou moins géré, et bien là il y a une crise RATP aujourd'hui. Donc il peut se déplacer, il vient nous voir et on va bien l'accueillir, bien sûr.
Il a été désigné par des politiciens posés là comme ça. Il ne connaît aucune histoire de l'entreprise.
Castex, il a un passé, il était membre du gouvernement, ce même gouvernement qui nous méprisait.
J'espère qu'il ne va pas arriver dans un monde de bisounours, tout va bien. Il y a des problèmes, il faut qu'il les gère.
Ancien Premier ministre du gouvernement, réforme Macron, rallongement des retraites, que du négatif. Je ne vois pas ce que va nous amener Jean Castex réellement.
Un patron déconnecté, c'est l'une des plus grandes inquiétudes des agents de la maintenance de la régie de transport qui ont des rémunérations parmi les plus basses. Un débutant touche à peine plus du SMIC, situation aggravée par la hausse des prix, qui pourrait d'ailleurs toucher aussi les titres de transport. La région Île-de-France a prévenu que sans l'aide du gouvernement, le pass Navigo pourrait passer de 75,20 € à 90 €, le ticket de métro d'1,90 € à 2,30 €. Les salariés de la maintenance RATP réclament, eux, une hausse de 300 €.
Donne-nous ma gauche à nous ! 300 €!
300 €! 300 €! 300 €!
Je suis rémunéré à peu près, même pas, à 1 500 €. Ça, c'est rien du tout.
Ça fait 25 ans que je suis à la RATP, ça fait plus de 10 ans que j'ai pas été augmenté.
Au jour d'aujourd'hui, on demande 300 € de plus. C'est la moindre des choses parce qu'au jour d'aujourd'hui, nos premiers salaires sont un petit peu plus que le SMIC. On n'arrive pas à recruter parce que nos salaires sont pas attractifs.
Bonsoir Gilles Dansart.
Bonsoir.
Journaliste et rédacteur en chef du site Mobile Lettres, site spécialisé dans l'information sur les transports. C'est un cadeau empoisonné que Emmanuel Macron a fait Jean Castex. Il arrive à la tête d'une entreprise en crise.
Surtout, il rompt une tradition qui voulait qu'on mettait des PDG non politiques pour mettre un peu à distance les syndicats par rapport au pouvoir politique. Et là, le président nomme son ancien Premier ministre. Donc en fait, les salariés ont compris, dès ce matin, ils font pression sur leur nouveau PDG pour faire pression sur le président. Et d'ailleurs...
Et ça va fonctionner.
Et ils ne sont pas les seuls, puisque même Valérie Pécresse a compris aussi.
Exactement.
Cet élément de base.
Puisque Jean Castex, il faut le rappeler, n'a pas la main sur le prix du ticket de métro, c'est Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, qui décide et qui envisage donc une hausse dès janvier 2023 pour faire face à la flambée des prix de l'énergie, une hausse beaucoup plus importante que l'inflation. Du coup, le gouvernement dénonce cette hausse envisagée.
Ce n'est pas le bon moment parce que les Français font face à l'inflation. Gouverner, c'est choisir. Madame Pécresse est maîtresse de son budget, des dépenses qu'elle engage et des recettes qu'elle récupère. Donc nous sommes autour de la table dans une logique de concertation.
Ce n'est pas le ministère des Transports et ce n'est pas l'État. C'est une réalité qui fixe le prix des transports à Marseille, à Paris ou ailleurs. Il n'y a aucune justification à ce qu'on passe le Navigo, par exemple, à 100 € et qu'on ait des augmentations de 25 ou 30 %. Je n'en vois pas de justification.
Alors on voit bien le bras de fer politique là, qui se joue à distance. Est-ce qu'elle est justifiée cette hausse ou pas? Ou est-ce qu'elle est évitable?
Une autorité comme Île-de-France Mobilité n'a pas le droit d'avoir un budget en déficit. Donc il faut voter avant la fin de l'année des ressources à la hauteur des dépenses. Mais le problème, c'est que le gouvernement et le Sénat ont interdit à Valérie Pécresse d'augmenter l'imposition des entreprises. Donc, qu'est-ce qui reste
d'augmente, comme... C'est-à-dire que la participation des entreprises au Pass Navigo est plafonnée.
Est plafonnée. Ouais. Donc, si vous ne pouvez pas augmenter ce qu'on appelle le versement mobilité des entreprises, si vous, collectivité, vous n'avez plus assez de ressources avec les départements, le conseil
vous
régional,
n'avez pas d'autre choix.
Pour faire plus, eh bien, il reste la tarification usagée.
Pour une somme considérable, hein, parce que c'est 1 milliard d'euros à peu près, hein, qui pourrait rentrer en plus dans les caisses de la région en passant de 75 à 90. Hein. Un milliard.
Il lui manquait 950 millions. Elle a fait les poches beaucoup. Un peu tout le monde, des collectivités, des opérateurs. Par exemple, elle a demandé à la SNCF et à la RATP de lui rendre les bénéfices qu'ils avaient faits. Donc tout le monde a fait des efforts et il manque quelques centaines de millions, d'où cette augmentation de 15 euros, c'est quand même 20%.
Pourquoi est-ce que le gouvernement ne veut pas déplafonner la contribution des entreprises à ces titres de transport en commun ?
Parce que Bercy considère qu'on fait suffisamment de taxes aux entreprises et que ça n'est pas le moment. Donc Valérie Pécresse dit au gouvernement, faites un effort et donnez-nous des subventions comme... Il faut le dire, c'est le cas dans la plupart des pays européens, parce que, faut que les Français le sachent, ils ne payent leur passe Navigo, ça n'est qu'entre 25 et 30% du vrai coût du transport. Donc, Valérie Pécresse dit, aidez-moi, et le gouvernement dit, prenez vos responsabilités, tout en lui disant, si vous passez à 90 euros, ça va être socialement difficile. Donc, on voit que c'est une lutte politique.
Mmh. Avec au milieu Jean Castex.
Avec Jean Castex qui arrive là-dedans et qui a des salariés qui lui mettent la pression et puis une vraie crise d'identité de la RATP.
C'est général la hausse des prix des transports en commun, c'est pas que en Île-de-France.
Quasiment
toutes les régions sont concernées.
C'est partout du fait de l'augmentation du coût de l'énergie notamment et puis de l'inflation en général sur tous les biens qui sont nécessaires au transport.
C'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron a annoncé hier dans une vidéo publiée sur YouTube que des projets de RER dans 10 métropoles françaises seraient donc lancés.
Pour tenir notre ambition écologique, je veux qu'on se dote d'une grande ambition nationale qui est dans 10 grandes agglomérations, 10 grandes métropoles françaises, de développer un réseau de RER, de trains urbains. C'est se dire, au fond, le RER, ça n'est pas que sur Paris. Dans les 10 principales villes françaises, où il y a thrombose, où il y a trop de circulation, où les déplacements sont compliqués, on doit se doter d'une vraie stratégie de transport urbain. Et c'est un super objectif pour l'écologie, l'économie, la qualité de vie.
Il était temps de proposer de nouvelles alternatives au transport, alors qu'on sait qu'on va chasser des centres-villes les voitures les plus polluantes.
Surtout, il y a le vice-président d'une grande région, la Nouvelle-Aquitaine, la plus grosse, Bordeaux, qui a dit, heureusement qu'on ne l'a pas attendu. En fait, ça fait déjà 2 à 3 ans que des équipes travaillent d'arrache-pied pour imaginer ces RER dans les métropoles. En gros, pour faire simple, c'est de désenclaver d'une certaine façon les régions périurbaines. Depuis 30 à 40 ans, on a développé le TGV, on a développé les transports urbains. Et puis, on a laissé le périurbain un peu sans solution. Donc, les gens font des heures de voiture, c'est bouchonné, il n'y a pas de solution de transport en commun. Et donc, il fallait faire ça. Donc, le président confirme que c'est une bonne idée.
Est-ce que ces RER vont rouler avant qu'on chasse les voitures des centres-villes ou pas ?
Ça va mettre plusieurs années, parce qu'en ferroviaire, rien n'est simple. Donc, parce qu'il ne faut pas interrompre les circulations, parce que vous ne pouvez pas dire aux gens pendant 6 mois ou pendant 1 an, vous ne prenez plus le train parce qu'on va moderniser. Donc, ça prend du temps, c'est long, c'est compliqué, mais ça a commencé. Et surtout, contrairement aux grands projets qu'on voit, par exemple, dans la région parisienne, ces RER dans les 10 villes de province, dans les 10 grandes métropoles, il s'agit plutôt de moderniser l'existant, de moderniser les systèmes de signalisation, tout ce qui est un peu obscur, qu'on ne voit pas quand on prend le train, c'est surtout ça. Donc ça va être un peu moins compliqué que les 15 ou 20 ans de travaux à Paris.
Le Grand Paris, voilà, avec la création de ces nouvelles lignes.
Ça va être un peu plus rapide, mais ça va quand même prendre du temps.
Vous vous souvenez certainement du collectif Ibiza et son très célèbre sosie de Jean-Michel Blanquer. Il y a quelques jours, c'est en Sardaigne que ce collectif a manifesté pour interpeller Valérie Pécresse justement sur la dégradation des transports en commun en Île-de-France.
Pécresse, on est les usagers des transports en commun et on aimerait bien vous venir un jour voir dans le métro ou dans le bus avec nous.
Mais alors vous m'avez raté ce matin, c'est dommage, j'étais gare du Nord et vous n'étiez pas là. Bah oui, c'est bête, ça c'est bête.
Aussi nous dans les transports.
Eh bien, très bien.
Plus sérieusement, derrière, il y a une vraie colère sur la dégradation des transports en Île-de-France. C'est une exception ça en France ?
C'est très fort en Île-de-France parce qu'on n'a pas refait une offre à 100%, comme on dit. On n'a pas remis tous les métros, tous les bus. Les bus, c'est quand même 25% en moins en moyenne, et sur certaines lignes, c'est beaucoup plus, de bus en moins par rapport à ce qui était avant. Les métros...
Avant quoi ? Avant le Covid ?
Avant le Covid. Mmh, et donc, la RATP, puisqu'il s'agit d'elle en l'occurrence, elle n'arrive pas à remettre le maximum. Et comme les Français ont compris qu'il y avait une urgence écologique, comme ils veulent faire aussi des économies par rapport au coût de l'essence, etc., ben ils vont dans les transports en commun et ils trouvent une situation de thrombose et de saturation. Donc ça coince et ça rend d'autant plus compliqué d'augmenter de 20% le tarif de ce qu'ils subissent au quotidien.
Mais le truc que je ne comprends pas, c'est que la RATP n'est pas arrivée effectivement à remettre tous les métros, sauf que les objectifs fixés par la région Île-de-France ne sont pas à 100%, enfin pour la plupart des lignes, c'est des objectifs en dessous de 100% avant le Covid. Je ne comprends pas pourquoi.
Eh ben, parce que tout simplement, bon, c'est toujours, encore une fois, c'est toujours assez compliqué dans le transport, mais là, c'est assez simple. Comme la région Île-de-France avait des problèmes de budget, elle remettait 95 à 98%. Et elle n'avait pas complètement anticipé le retour massif.
Elle faisait des économies, des gens, en quelque sorte.
Des gens dans les transports. Ouais. Mais sur cette commande à 90, 95 ou 98%, la RATP n'arrivait même pas à la faire. Elle était plutôt à 88, 90.
D'accord.
Donc, il y avait une double raison. Maintenant, l'Île-de-France veut remettre à 100%, mais RATP n'y arrive pas pour l'instant.
Ce matin, le ministre des Transports, qu'on a écouté tout à l'heure, a également évoqué une piste pour faire face à la pénurie de conducteurs de train, cette fois, notamment dans les Hauts-de-France, faire appel aux jeunes retraités.
J'ai demandé un plan exceptionnel qu'on n'a jamais fait pour qu'on soit créatif, qu'on trouve des solutions. On ne dise pas juste aux gens, bah tant pis.
Donc,
et donc, par exemple, il y a eu déjà des trains, il y a déjà des conducteurs qui ont été réaffectés dans les Hauts-de-France il y a quelques jours. Il y aura de nouveaux trains qui seront remis en place d'ici Noël. Et je l'ai demandé à la SNCF d'aller chercher toutes les solutions. Je le disais, par exemple, chercher les jeunes retraités. Ils sont capables de conduire un train, ils peuvent être motivés, on peut les payer. Et ça peut être une solution.
C'est une bonne solution ?
C'est une solution partielle, temporaire. Bon, le ministre...
Un jour, ils seront vieux retraités, ils ne pourront pas continuer.
Voilà. Déjà, ils sont assez jeunes retraités, mais il a envie d'exister dans le débat.
Ah oui.
Ça n'est que temporaire. Mmh.
C'est de la com', quoi.
C'est un peu de com', et puis c'est un ministre qui veut... qui était un peu isolé dans les affaires européennes à Bruxelles. Et là, il vient sur le théâtre national et c'est une vitrine formidable. Il a envie d'être candidat, pourquoi pas à Paris, pourquoi pas en Île-de-France. Donc, il en profite pour montrer qu'il prend les choses en main. C'est un peu anachronique par rapport à toute l'évolution de la gouvernance des transports où justement, l'État avait dit on met à distance, on laisse les collectivités locales s'occuper de cette affaire qui est souvent une source d'emmerdement, excusez-moi.
Mais je vous en prie, Gilles Dansart. Il y a ce genre de propos dans Mobilette.
On essaie de parler de façon un peu cash, un peu des vraies choses.
Je rappelle que vous en êtes le rédacteur en chef et c'est un site d'information spécialisé dans les transports. Merci de votre présence ce soir. C'est l'heure de la story de Mohamed Bouabsi. Mohamed, vous nous emmenez dans les coulisses de la gestion du Covid par Boris Johnson, qui prend des allures de série.
Oui, c'est la série Événements au Royaume-Uni. 6 épisodes féroces qui reviennent en détail sur la gestion chaotique de la première vague de Covid par le Premier ministre anglais. This England démarre en janvier 2020, alors que Bojo n'en finit pas de célébrer l'entrée en vigueur du Brexit. Le coronavirus se répand à Londres et tout de suite, à l'image, on découvre l'impréparation du gouvernement britannique et surtout l'inconscience de Boris Johnson.
Spybee has recommended a really clear policy of no shaking hands and really good hand washing hygiene.
The sort of thing my nanny used to tell me.
We need to isolate people who have symptoms. And looking ahead, we do need to think about school closures.
Oh, really?
As you can see, we have been extremely busy with a lot of cases, but we are coping admirably.
Hello, good to see you. Listen, how are you feeling?
Not good.
You are in the best place. We have got the best doctors in the world.
The advice is not to shake hands, just so you know.
That would be terrible. It'd be like Churchill hiding in a bunker.
Cette scène a vraiment eu lieu dans la vraie vie à Londres. La série décrit avec beaucoup de précision le décalage absolu entre Boris Johnson et ses conseillers. Un Premier ministre désinvolte qui se consacre plus à l'organisation de soirées et à sa nouvelle vie de jeune divorcé qu'à la gestion de la pandémie. Les fêtes s'enchaînent au 10 Downing Street, tandis que la situation se dégrade dans les hôpitaux et les maisons de retraite, jusqu'au déclic, la contamination au Covid de Boris Johnson, puis son hospitalisation en soins intensifs.
How are you?
Oh dear, not too bad. Feeling a bit better.
I'm glad. I was so worried.
It's good to hear your voice. I was worried that I might not hear it again.
What's it like? The virus?
It was like a bad dream. A little bit like when I was a child and I had the mumps.
or is having a really bad trip.
Les scénaristes de This England ont travaillé avec des journalistes politiques afin de peaufiner le personnage du Premier ministre britannique. Et une petite question, une petite devinette. Est-ce que vous avez découvert ou, l'acteur qui se cache sous les traits de Boris Johnson?
Là, on voit le vrai Boris.
Ouais, là, c'est le vrai Boris. On va peut-être le revoir.
Moi, j'ai la réponse. Ouais,
là, une réponse.
C'est un grand acteur britannique.
Réponse, ah, voilà, donc,
Kenneth Branagh.
Ouais, c'est Kenneth Branagh qui se cache sous les traits de Boris Johnson. Chaque jour, il fallait à l'acteur près de 3 heures de maquillage et plusieurs panneaux de rembourrage pour se transformer.
I know that there was an amazing team who did that transformation, which took quite a number of hours every day, and it was part of, you know, trying to create a situation where. You know, the audience just wouldn't be bothered. They'd somehow accept the way that character fitted in. A lot of it is real eyewitness testimonials from the real participants in right across the nation in all sorts of different parts of the experience of coping with COVID.
Dans un royaume qui dévore les séries politiques comme The Crown, bien sûr, ou encore Bodyguard, cette série extrêmement sévère pour Boris Johnson peut-elle avoir des conséquences sur son futur politique et un éventuel retour au 10 Downing Street? On a posé la question à l'éditorialiste du Télégraphe, Anne-Elisabeth Moutet.
J'ai pas l'impression que ça change grand-chose à ce que les gens pensent de lui. Parce qu'il a failli mourir et que les gens se sont bien rendus compte que lui-même, les erreurs, il les faisait pour lui d'abord. Il faut savoir que la série elle-même ne traite que la première partie, la première vague du Covid. Ça s'arrête avant la campagne de vaccination. Donc c'est un moment où personne ne sait ce qu'on peut faire et où tout le monde, ça s'est passé en France aussi, est en train d'essayer de faire face à une situation à laquelle ils ne comprennent pas grand-chose.
Selon The Times, Boris Johnson n'a pas prévu de regarder This England. Il trouve la série trop satirique, selon lui.
Ah oui, d'accord. Et c'est disponible à partir de ce soir, donc, sur Canal+, 6 épisodes qui donnent envie. Hein,
n'est-ce pas?
C'est ce qu'on se disait avec Marie Holzmann. Merci Mohamed, c'est l'heure du 5 sur 5 de Mathieu Béliard.
Bonsoir Babette, bonsoir à toutes et à tous.
Mathieu, l'affaire McKinsey continue de faire réagir.
Oui, l'annonce de l'ouverture de deux informations judiciaires par le parquet national financier autour des campagnes victorieuses d'Emmanuel Macron en 2017 et 2022. Mais dans toute la classe politique, on a rapidement repris un refrain entendu tout au long de la dernière campagne présidentielle. Vous vous en souvenez, c'est sûr.
Le scandale McKinsey, un scandale d'État. Dans n'importe quelle démocratie, Emmanuel Macron ne pourrait même pas se représenter.
À partir du moment où vous mettez 1 milliard d'euros pour mettre des cabinets de consultants au cœur des politiques publiques, c'est un scandale d'État.
On a besoin d'experts pour savoir comment il faut réorganiser l'éducation nationale, par exemple supprimer des lits. Non, il n'y a pas besoin d'experts.
Avec lui, McKinsey continuera à se gaver d'argent public, à ne pas payer d'impôts en France et à se permettre en plus de mentir devant le Sénat.
Alors du coup, je ne vous rejoue pas les commentaires de l'opposition ce week-end, parce que cette fois, les reproches viendraient même de l'intérieur. Même dans le camp même du président de la République, le sujet a fait parler et on a cru hier à une forme de mea culpa venue du ministre de l'Économie.
Ce qui compte, c'est ce que nous faisons pour répondre aux abus qui ont eu lieu sur le recours à des cabinets de conseil extérieurs. Moi, je le reconnais bien volontiers, je pense que nous sommes allés trop loin. Dans le fond, on avait pris sans doute trop l'habitude de dire, voilà, l'administration n'est pas capable de faire ce travail, on va externaliser et demander à des cabinets de conseil. Je pense qu'il y a eu effectivement une dérive.
Il faut croire que la ligne de défense n'est pas encore très claire dans la majorité. Ce matin, le porte-parole du gouvernement a quasiment repris Bruno Le Maire, défendu l'utilisation qui a été la sienne de ces cabinets de conseil.
C'est parce que c'est qu'une dérive ou un abus. Je sais que quand j'ai eu besoin de rattraper l'Allemagne dans la campagne vaccinale, j'ai fait appel à une entreprise qui venait de conseiller l'Allemagne dans l'élaboration des centres de vaccination. En fait, si on fait appel à des boîtes privées pour conseiller l'État, ou les collectivités d'ailleurs, les maires...
C'est parce que les fonctionnaires ne savent pas le faire ?
Non, c'est parce qu'on en a moins. Parce qu'il y a eu les programmes de réduction des fonctionnaires dont certains présidents se sont fait les héros.
Une journaliste de France 24, prise à partie la semaine dernière au Proche-Orient.
Laïla Odeh, c'est une correspondante de France 24 en langue arabe. Elle faisait son travail à Jérusalem après l'explosion de deux bombes dans des stations de bus, attaques terroristes qui ont fait un mort et 22 blessés. Mercredi, alors que Laïla Odeh et son caméraman sont en direct, ils sont pris à partie par de jeunes extrémistes israéliens.
Okay.
הרבה רוח רעשה.
זה זמוקו.
לא רוצה.
וואלה.
לא רוצה. וואלה, לא רוצה.
אני בעבודה.
לא מעניין אותי.
אתה מפריע אותי.
לא מעניין אותי.
יאללה, זוז מפה.
לא מעניין אותי. מוות לערבים. מוות לערבים. מוות לערבים.
سنعود الى مهني شكرا جزيلا.
Agression dénoncée par la rédaction de France 24 qui précise également que l'équipe a sollicité aide et protection à un policier qui a refusé d'intervenir et qui leur a même intimé l'ordre de quitter les lieux. La Société des journalistes de France 24 qui rappelle également que cette journaliste a déjà été ciblée par des extrémistes. Regardez ces images, on la voit clairement être la cible d'un projectile. Une bouteille d'eau, là encore à Jérusalem, là encore en plein direct. Pour en revenir à la première prise à partie et à l'attentat de Jérusalem, il s'agit d'attaques survenues dans un contexte de transition politique en Israël, contexte dans lequel cet homme, Itamar Ben-Gvir, le chef d'un parti suprémaciste juif, cet homme s'apprête à devenir ministre de la Sécurité nationale. D'autres images qui interpellent, c'est un homme politique d'extrême droite, mais c'est aussi un activiste qui s'est déjà illustré, que ce soit au Parlement ou sur le terrain.
אתה צריך להיות בכנסת בסוריה, לא כאן. לא כאן.
אני מבקש להוריד אותו מיד.
לא יורד.
אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה.
לא יורד, אתה מחבל, אתה לא תיתן לי לא לדבר. אני
קורא אותו מהאולם מיד. נא להוציא אותו מהאולם.
צורכים אבנים לא מבית.
לראות לי.
אבנים לא מבית. לסכנת חיים שלנו.
איתמר, למה אתה שולף נשק?
איתמר בן גביר, qui a par ailleurs été condamné à plusieurs dizaines de reprises pour incitation à la haine raciale.
Le Brésil a assuré ce soir sa qualification en huitième de finale en s'imposant contre la Suisse 1-0. C'est toujours au Qatar et c'est toujours la Coupe du Monde.
Oui, un Brésil sans Neymar, l'attaquant parisien blessé à la cheville depuis le premier match de sa sélection jeudi dernier. Neymar, sa cheville, le moindre ligament scruté comme le lait sur le feu, à tel point que des Américains se sont fait avoir. Fox Sports croyait avoir le scoop. Neymar, vu dans les rues de Doha, et puis d'ailleurs tout y est, les smartphones autour, les fans, la démarche assurée de la star qui ne peut s'arrêter sans qu'on le reconnaisse. Regardez, il gambade la cheville, a presque l'air d'aller bien, sauf que ce n'est pas Neymar en réalité. On s'est fait avoir, dit Fox Soccer sur Twitter, leur compte dédié au foot. Il s'agissait d'un sosie de Neymar.
Qui a eu la bonne idée d'aller au Qatar lui aussi.
Qui a eu l'idée d'être au
forcément.
Qatar, évidemment.
Autour de la Coupe du Monde, on parle à nouveau des brassards One Love.
Oui, ces fameux brassards pour lutter contre les discriminations et par là même protester aussi contre la politique qatari. Des footballeurs, des sélections nationales voulaient faire porter ce brassard sur les pelouses du Mondial. On a raconté l'échec de l'opération, le nom de la FIFA, les fédérations qui s'y plient, le scandale que cela a suscité.
Sauf qu'aujourd'hui, on voit réapparaître ces brassards, mais ici, en France.
À la faveur d'un drôle de courrier signé par Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football, la même fédération qui s'est pliée aux injonctions de la FIFA et du Qatar. Hashtag marqué demain, dit la lettre, qui est adressée au président de Ligue des districts et au club. C'est tout le foot amateur, en fait, qui est visé par cette lettre, qui rappelle que la FFF s'engage contre les discriminations et qui accompagne des brassards, deux par courrier, qui demandent au club et au capitaine de l'arborer, de le porter lors d'un maximum de rencontres officielles. Fin de citation. Un relais média serait même programmé. Eh bien, le voilà.
Oui, bon, c'est peut-être pas celui qu'espérait la Fédération française de foot. Bonsoir, Louis-Johan Lemaire.
Bonsoir.
Ancien footballeur, vous êtes président de l'association Foot Ensemble qui lutte contre l'homophobie dans le football. C'est un courrier, une initiative qui, on imagine, vous a mis très, très en colère.
Là, pour le coup, c'est ridicule parce qu'après les déclarations de Noël Le Graët et d'Hugo Lloris, comment voulez-vous expliquer aux amateurs d'essayer de porter le brassard quand on voit que Hugo Lloris n'est pas d'accord et Noël Le Graët non plus? Donc là, c'est affligeant. Et puis, si vous voulez, ça fait effet inverse. C'est-à-dire que là, les gens qui nous contactent, parce que nous sommes une association Foot Ensemble qui est partenaire de la Fédération française de football. D'ailleurs, ils ont envoyé dans toute la France nos outils pédagogiques sans qu'on soit au courant, déjà. Donc là, on a des clubs qui nous appellent et qui nous disent « c'est quoi cette blague ?» quoi. Donc là, ça ne fait pas très crédible.
On était au courant de rien.
On savait que quand même, on collaborait un petit peu ensemble. On avait fait un clip vidéo, on avait fait plusieurs clips d'ailleurs, que ce soit avec les joueurs d'équipe de France, on va en essayer. Et puis aussi, comment faire pour parler de ce sujet très tabou auprès des jeunes. Bon, là, pour le coup, on n'était pas du tout au courant de cette campagne.
Donc ça n'a pas du tout marché. Personne n'a porté le brassard ce week-end déjà, non ?
Honnêtement, ça va être compliqué de savoir qui l'a fait parce que je crois qu'a priori, beaucoup de gens ont pris ça à la rigolade.
La fédération s'achète une conscience, dit un président de club amateur en Normandie. Est-ce que vous la qualifieriez cette initiative d'hypocrite ?
Pas vraiment, parce que honnêtement, sur le fond, c'est intéressant. Ils avaient juste à copier, entre guillemets, ce que la Ligue de foot professionnelle fait, avec le fonds d'action notamment, c'est-à-dire beaucoup d'actions dans les clubs. La LFP, par exemple, fait des actions sans cesse dans les clubs, dans les centres de formation pour parler aux jeunes, jusqu'aux joueurs pros et même les supporters. Donc ça, il suffisait de copier ça. Ils ont essayé, alors évidemment à la façon FFF, à la dernière minute, en plein Coupe du Monde, alors que Noël Le Gray a dit tout l'inverse. Je pense qu'à partir du moment qu'on essaye d'apporter des outils auprès des jeunes, c'est important.
Mais il faut donner l'exemple en haut, quoi.
C'est le problème, parce que là, c'est destructeur pour nous qui allons sur le terrain. Je peux vous garantir, quand on va parler à des jeunes footballeurs et qui... l'homosexualité, c'est un sujet très compliqué avec eux, eh bien, on dira, on va faire comme Hugo Lloris, on va respecter la culture du Qatar. Ouais. Et il y a un gros problème aussi de religion, d'interprétation de la religion dans le football.
On va l'écouter, justement, Hugo Lloris. Vous avez eu des mots durs pour le capitaine des Bleus, Hugo Lloris, pour ses propos tenus. C'était à Clairefontaine, à quelques jours du départ pour le Qatar.
Sur le sujet, bien sûr, j'ai mon opinion personnelle et ça rejoint un petit peu celle du président. Lorsqu'on est en France, lorsqu'on accueille des étrangers, on a souvent l'envie qui se prête à nos règles, qui respecte notre culture. Et j'en ferai de même lorsque j'irai au Qatar, tout simplement. Donc après, je peux être d'accord ou pas d'accord avec leurs idées, mais je dois montrer du respect par rapport à ça.
Vous êtes aussi l'auteur d'une interview de ce même Hugo Lloris, interview qui n'a pas été diffusée. Il résumait les chants homophobes dans les stades à du folklore.
Oui, à du folklore. Il n'était pas à l'aise avec le sujet, il n'était pas préparé, on sent qu'il n'est pas concerné. Il est à côté de la plaque.
Au-delà du Golloris, qu'est-ce que ça nous dit de l'état d'esprit des joueurs français sur ces questions-là?
Je m'interroge. Il y a quand même des joueurs qui sont très agréables. On a vu Jules Koundé, il y a Antoine Griezmann, il y a Tchouamani. Il y a certains joueurs qui veulent s'engager, qui sont vraiment agréables sur ce sujet. Et d'autres qui ne veulent pas du tout en parler, ça les dérange. Une fois de plus, c'est un sujet où on essaie de leur expliquer que c'est important pour nous qui allons sur le terrain auprès des jeunes, aider les éducateurs à parler du sujet. Et puis, pas montrer cet exemple. Là, c'est assez ridicule. Il parle de respecter les cultures du Qatar. Je veux dire, c'est destructeur quand on va sur le terrain pour aller voir les jeunes.
Ce que vous faites au sein de l'association Foot Ensemble, qui est une association qui fait partie de la Fédération Française de Football. Une dernière image en provenance du Qatar ou quelques images
quelques photos et vidéos. D'abord, il y a un grand classique, Babette, celui des supporters japonais qui nettoient derrière eux, ici dans les gradins d'un stade qatari, il y a quelques jours. Les Japonais, toujours très respectueux de leurs hôtes, mais leur rigueur va bien plus loin. Regardez cette ambiance, cette fois, à Shibuya, principale place de Tokyo, après la victoire surprenante contre l'Allemagne. C'est comme chez nous, sur les Champs-Élysées, sauf qu'à un moment, le feu repasse au vert. Et tout le monde court à nouveau sur le trottoir pour ne pas déranger la circulation avant de revenir éventuellement ensuite.
Ça simplifierait nos problèmes de transport.
Dis donc.
Quand le feu
prendre de la graine.
Le feu repasse aujourd'hui.
Merci beaucoup Mathieu. Merci Yoann Le Maire d'être venu ce soir sur le plateau de C'est à vous. Merci Marie Holzmann. Merci Gilles Dansin. Merci à tous les trois. Dans un instant, Alain Souchon et notre invité Reda Kateb nous rejoindra pour nous parler du film de Rachid Bouchared, Les Frangins. Puis aussi L'œil de Pierre, les actualités de Bertrand, Le Vu et les infos express de C'est à vous. Restez avec nous. À tout de suite. Merci d'avoir écouté ce podcast de France Télévisions. Pour ne rien rater de C'est à vous en audio, vous pouvez vous abonner à tous nos podcasts sur votre plateforme d'écoute favorite dans la rubrique C'est à vous et en vidéo, le replay bien sûr, c'est sur France.tv. À très vite.